Et est-ce que ça se rapproche du soin communautaire ?
C'est complètement dans la continuité. Hein. De toute façon, Aide a toujours été, et c'est toujours considéré comme une asso communautaire. Dans l'association, il peut y avoir un consommateur, d'anciens consommateurs. Avec aujourd'hui, on parle aussi de père aidant, etc.
La père aidant, c'est l'implication de personnes concernées dans la prévention et la transmission de savoir. Les collectifs de pères aidants jouent un rôle essentiel dans la réduction des risques liés à l'usage de drogue, surtout dans les milieux festifs, précaires ou stigmatisés. Ces collectifs sont composés de personnes concernées, usagers, usagères de drogue, actuels ou anciens, qui partagent leur savoir, leur expérience et leurs pratiques pour aider d'autres usagers, usagères sans jugement ni moralisme. Si je veux le faire rebasculer d'un point de vue plus politique, est-ce que la lutte contre la drogue, c'est pas finalement une guerre contre la pauvreté ? Et ça amène une réflexion qu'il faut articuler autour de la prohibition, le racisme d'État, le contrôle social et le capitalisme.
Quant à la guerre à la drogue, c'est une large question. Là, c'est bien parce que ça rejoint aussi la journée de Support Don't Punish. Mais au niveau mondial, la guerre à la drogue a été un échec. L'ONU a mis ça en place, l'ONU a été le premier à dire à un moment T, ok, la guerre à la drogue, ça ne fonctionne pas. Là, c'est qu'il y a des milliards de dollars qui sont dépensés chaque année pour freiner les marchés, la disponibilité des drogues, alors qu'à côté de ça, le nombre de personnes usagères de drogue, eh ben, les 4 dernières années, est passé de 271 à 296 millions, attenant aujourd'hui des records historiques. Que ce soit sur le paysage mondial comme sur le paysage français. En France, sur la cocaïne, c'est la première année où on a plus d'expérimentation sur la consommation de cocaïne que sur le cannabis. En 2024, on était à 1 100 000 consommateurs d'expérimentation sur le cannabis. On est à 900 000 expérimentations sur le cannabis. Donc on est quand même sur des stats qui sont assez, assez dingues.
Oui, et moi je voulais rebondir aussi là-dessus, c'était sur population carcérale, etc. Cette guerre à la drogue, en fait, elle amène plein de personnes, consommatrices ou usagères revendeurs, à se prendre des peines de prison plus ou moins longues, ce qui amène aussi, en fait, donc, à la surpopulation carcérale.
Il parle même de narco-racaille.
Narco-racaille,
ça permet de rajouter une petite strate comme ça. Là.
Alors qu'en fait, pour beaucoup de personnes dans les quartiers, parce que c'est souvent ce dont on parle, c'est surtout un échappatoire, un moyen de se faire de l'argent facilement, parce qu'en fait, on leur propose pas plus de solutions non plus. Enfin, comme tu disais, il y a tout un contexte social aussi autour de ça.
Par rapport à ta question, du coup, je sais pas si j'emploierais les mêmes mots, mais en tout cas, le constat pour moi est le suivant, c'est qu'on a de plus en plus de coupes sur le budget qui peut être alloué justement à des missions plus de santé publique ou de réduction des risques ou de santé communautaire. Et je peux entendre que ça peut être rassurant de dire qu'on va augmenter le budget sur la sécurité pour les gens, pour un public électoral. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui n'ont de moins en moins d'accès à des structures qui peuvent les aider, ou alors à une saturation des structures. Et finalement, comme moi, en tant que professionnel de santé, mais aussi militant RDR, ce que je constate, c'est juste ça, quoi. Sans avoir une opinion après derrière, politisée ou pas, c'est juste je suis pas convaincu, et je les chiffres parlent aussi, hein, que c'est la meilleure façon d'aider les gens, finalement. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est plus d'aider les gens plutôt que de les enfoncer, quoi. Moi, je dirais cela sur ce thème.
C'est ça, et encore, on parle là du marché français, mais à l'international, c'est pareil. Entre 2019 et 2023, on est passé de 10 millions à 11,5 millions de personnes qui ont été incarcérées, emprisonnées pour des infractions qui soient liées à la drogue. On va faire l'impasse sur l'augmentation des personnes qui sont tuées aussi ou exécutées dans certains pays au niveau de la politique internationale, puisqu'en France, on va être puni par la loi, mais il y a d'autres pays où la consommation, le deal, toutes ces questions, ils le payent de leur vie, tout simplement. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une personne sur cinq au niveau mondial qui souffre d'une dépendance à la drogue, qui a accès à un traitement. Et ça fait pas grand-chose en vérité. Et effectivement, on a de la chance en France d'avoir des prises en charge qui fonctionnent à peu près.
Il y a un chiffre dont on n'a pas parlé, mais c'est qu'il y a à peu près 20% des gens qui présentent une addiction présenteront aussi une affection psychiatrique. Du coup, ce qu'on appelle la dualité, donc ça représente quand même un cinquième à peu près si on prend les stats. Et on sait que malheureusement on est plus dans un moment où le système de santé en France malheureusement est saturé, d'autant plus quand on parle de spécialités, de choses un peu plus spécifiques comme la santé mentale, où malheureusement il n'y a pas assez d'accès pour tous les patients, toutes les situations. Et donc je pense que finalement, moi ce que je constate de ma petite personne, c'est ça, c'est qu'on est finalement de plus en plus acculé dans nos petites structures avec une vision qui n'est pas l'élargissement des moyens. Et du coup, on a du mal à voir comment une politique de culpabilisation pour des gens malades pourrait amener quelque chose de positif.
Et on retrouve aussi parfois un manque de sensibilisation aussi auprès des personnels soignants sur ces questions-là d'addiction, parce que ça reste tabou, etc. Et en fait, donc nous, dans nos structures, c'est vrai qu'on en parle énormément parce que bah, forcément, on est au cœur du sujet. Mais quand on va travailler avec un hôpital, qu'il soit hôpital public ou hôpital psychiatrique, ou, parfois en fait des gros manques qui ne sont pas de la faute du personnel soignant, hein, bien sûr, sur les questions d'addiction, d'addictologie et même de connaissance des produits, en fait.
Ce qui est intéressant d'observer, c'est surtout le fondement raciste et religieux sur lequel repose cette guerre. Plusieurs articles et vidéos à propos de la War on Drugs relaient très souvent une citation que l'on prête à John Ehrlichman, conseiller en politique intérieure de Richard Nixon. La campagne de Nixon en 1968 et le mandat de Nixon ensuite à la Maison Blanche avaient deux ennemis, la gauche pacifiste et les noirs. Vous comprenez ce que je dis ? Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être contre la guerre ou d'être noir, mais en faisant en sorte que le public associe les hippies avec le cannabis et les noirs avec l'héroïne, et en criminalisant les deux très lourdement, nous pouvions déchirer ces communautés. Nous pouvions arrêter leurs leaders, faire des descentes dans leurs maisons, interrompre leurs meetings et les calomnier jour après jour aux journaux télé du soir. Savions-nous que nous mentions sur les drogues ? Bien sûr. En réalité, on sait pas hein, s'il a vraiment dit ça. Pour autant, on sait depuis longtemps que les conséquences de la War on Drugs aux États-Unis ont surtout pesé sur les Noirs, comme l'a mis en évidence la criminologue Mona Lynch. Et la différence de traitement entre Noirs et Blancs n'a aucune raison d'être si ce n'est le fait que les États-Unis sont un système profondément raciste. Et c'est loin d'être le seul pays avec un tel système, hein, notamment lorsqu'on observe l'histoire coloniale des pays occidentaux. Les Noirs ne vendent ni ne consomment pas plus que les Blancs. Il y a un biais important dans les contrôles et dans la vision de la police dès qu'il s'agit de repérer de potentiels délinquants. Et la War on Drugs n'a fait qu'accentuer les conséquences de ce biais xénophobe. Ce cercle vicieux est d'autant plus compliqué à briser du simple fait qu'il dure depuis très longtemps, et que beaucoup de personnes sont désormais convaincues que si on trouve plus de crimes dans une certaine population, c'est uniquement parce qu'elle en produit plus, et pas parce qu'on surveille surtout cette population et pas les autres.
Dans les années 80 aux États-Unis, la CIA a toléré, voire soutenu l'importation de cocaïne par des réseaux liés aux Contras au Nicaragua, tout en menant une guerre féroce contre les usagers sur son propre sol. Alors pourquoi, malgré les chiffres en fait et le constat de l'inefficacité, la logique punitive reste dominante ? C'est des enjeux politiques très personnels, on veut rassurer un électorat.
Mais c'est un enjeu qui est effectivement global. On va parler aussi peut-être d'éthique, on va parler de ce type de choses-là qui font qu'on a des politiques au niveau français comme au niveau mondial qui sont absolument pas ouvertes sur ce type de questions, qui vont encore nous dire qu'on peut être incitatif. Moi, on a des associations comme Technoplus, par exemple, qui travaillent en réduction des risques depuis très longtemps maintenant en France. On a fêté leurs 30 ans cette année, il me semble, qui ont été plusieurs fois mis en procès pour des flyers qui se voulaient informatifs et permettre aux usagers de prendre soin de leur propre santé.
Et dans la tête des gens, qu'on fait nous, que ça soit sur du festival, dans nos structures Carude, que ça pas ou quoi, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est incitatif. Avant qu'on leur explique, etc. J'ai un exemple typique, hein. Sur Toulouse, il y a 5 distributeurs de seringues qui sont présents. Je m'en occupe assez fréquemment pour les remplir, les nettoyer, etc. Je me suis fait interpeller plein de fois. Mais pourquoi vous faites ça? On va retrouver partout, autour de chez nous, vous les aidez à se droguer. Après avoir discuter avec ces personnes-là en leur disant que bah, en fait non, il y a un récupérateur de seringues, etc. C'est ce qui fait que vous n'en retrouvez pas tout autour. Je pense à un manque d'information et de sensibilisation sur cette question-là.
C'est ça, et puis là on peut redonner quelques chiffres. Hein. Avant le décret Barzac de 87, on était à quasiment 70-80% d'infections VIH dans les usagers de drogue par voie intraveineuse. Aujourd'hui, en France, depuis que les structures comme les nôtres existent, on est tombé à 0,4%. Donc en soi, c'est déjà une statistique qui explique pourquoi est-ce qu'on est financé en fait pour travailler pour et avec des usagers de drogue.
Tout ça dans une logique de préservation du système de santé publique aussi, avec des objectifs qui avaient été annoncés, éradication du VHC, donc de l'hépatite C, pour 2025 par la France, et finalement on va plutôt reporter à 2030, et on verra ce que l'avenir nous dira, mais finalement c'est aussi comprendre qu'en fait nous concerne tous.
J'ai l'impression que ça crée aussi une espèce de hiérarchisation en fait entre les bons et les mauvais consommateurs, ça permet de mettre à distance.
Oui, et puis il y a une vision des consommateurs même entre eux, moi je me rappelle quand je faisais du festif aussi, que les gens passaient sur mon stand RDR, le fumeur de pétard me disait toujours « Ah ouais, mais jamais je prendrai un ecstasy, c'est trop fort, machin. » Le consommateur d'ecstasy me dit « Ah mais jamais je prendrai des rails de coke, c'est dégueulasse. » Et puis celui qui sniffait des rails de coke, « Ah ouais, non, mais moi je me piquerai jamais à l'héro. » Même dans les consommateurs, en fait, il y a une hiérarchisation de la consommation. Et puis après, les gens extérieurs à la consommation ont aussi une vision différente. Dans les films, on trouve sa classe, je repense pense aux, aux films des années 80, dans la boîte, une bouteille de champagne, des lignes de coke, les costards, ça, ça fait bien. Par contre, le Quepon qui prend son, son taquedero au bord de la rue, ouais, ça le fait moins.
La drogue au cinéma. Car des drogues, on en consomme beaucoup dans les films. De l'herbe dans The Big Lebowski, de la coke dans Twin Peaks Firewalk With Me, de l'héroïne dans Bad Lieutenant, de l'opium dans La Polonide, de la cortisone dans Derrière le miroir, de la colle dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, ou encore du LSD dans Le Péril Jeune, bref, de la drogue en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. La drogue à l'écran se consomme beaucoup dans les milieux artistiques, par exemple dans le monde du cinéma, comme le montre Philippe Garrel dans Sauvage Innocence.
Non mais tu sais, tous les grands artistes prennent ça.
De la drogue que l'on consomme aussi dans le milieu littéraire, en tous les cas Peter Weller, en ersatz de William Burroughs dans Le Festin Nu. Et puis surtout, de la drogue qu'on en consomme dans le monde de la musique, que l'on soit batteur dans un club de jazz, comme Frank Sinatra dans L'Homme au bras d'or, ou saxophoniste célèbre comme Forest Whitaker dans Bird. Et enfin le rock, bien sûr, touché lui aussi par la drogue, comme dans Velvet Goldmine. À part ça, si la drogue au cinéma est le plus souvent consommée par des marginaux, comme ici les hippies de R, elle est aussi parfois consommée par une certaine bourgeoisie, notamment américaine, s'encanaillant via la consommation d'herbes, comme Kevin Spacey dans American Beauty, ou comme Nicole Kidman et Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, contestant leur train-train quotidien par un petit jouet.
C'est finalement que les substances, elles n'ont pas de, de morale. C'est une molécule qui va avoir un effet sur le cerveau, qui peut être différent en fonction de comment on se sent, comment on est, et ainsi de suite. Mais finalement, c'est ce que l'homme a mis dessus. Donc sans dire que c'est bien ou c'est mauvais, c'est finalement des représentations. Encore une fois, est-ce qu'il y a un bon usager, un mauvais? Est-ce que sniffer, c'est plus classe que de s'injecter? Enfin, je veux dire, c'est des représentations humaines qui amènent à ce genre de classification et de démarcation des usagers. Mais pareil pour la loi sur les substances, c'était pour encadrer à un moment donné, mais il y a eu des choix qui ont été faits, quoi. Parce que typiquement, si on reprend l'histoire ne serait-ce que de la cocaïne, il y avait le vin Mariani, il y avait des pastilles anticonvulsives dans les années 1900 en pharmacie contenant un peu de cocaïne pour son effet anesthésiant. Ça veut juste dire que finalement, dans l'histoire de l'humanité, des substances ont pu être à la fois un temps légales, à la fois salvatrices, à la fois divinatoires, et puis après tomber dans le rebut du mal absolu.
Une banane pour planter un clou? Bien sûr que ça ne marche pas. Pas plus qu'une peine de prison pour soigner une addiction. Pour la santé et les droits de tous, mettons fin aux sanctions pénales pour simple consommation de drogue. Signez la pétition législative.
La campagne Support Don't Punish, ça dénonce clairement les violences systémiques vécues par les personnes consommatrices de substances, les répressions policières, l'incarcération, stigmatisation, entrave à l'accès aux soins, discrimination raciste et classiste. Une politique de réduction de risques concrète et efficace. Alors ça impliquerait quoi pour vous en termes de pratique, de posture et d'objectifs?
Je dirais voilà, un accueil plus ou moins inconditionnel et à disposition de la personne sans exiger de la personne quelque chose, mais finalement toujours avoir une main tendue si la personne exprime un besoin, une nécessité d'aide sur un dispositif. C'est aussi remettre de la dignité sur la personne, ne serait-ce que prendre une douche. Voilà, c'est des questions finalement qui passent un peu invisibles pour les gens qui sont insérés, on va dire, entre guillemets, normalement dans la société, mais toute cette question de la dignité, de pouvoir accéder à une assistante sociale pour pouvoir refaire ses droits, de pouvoir faire des missions de travail pour se réinsérer, pour pouvoir avoir du matériel. Voilà, en fait, je pense à un ensemble d'outils qui vont être mis à disposition pour une personne à un moment donné, au moment où elle exprimera le besoin. Et c'est là tout le rôle de, notamment de mes collègues éducateurs spécialisés qui, eux, ont cet art de pouvoir faire le lien avec les gens et leur proposer ce qui leur semble juste au moment T.
Avant tout, ce qui permettrait, je pense, pour nous tous de faciliter le travail de réduction des risques envers l'usager, c'est un changement législatif. C'est-à-dire, c'est retrouver le cadre de Support Don't Punish, de peut-être appeler à une dépénalisation, mais surtout à une légalisation en France pour avoir un contrôle du marché, un contrôle de la qualité, baisser ou arrêter le marché noir, pouvoir permettre à des usagers, usagères de produits, de pouvoir pousser la porte de nos structures sans être dans une culpabilisation avec facilité et de pouvoir le faire quand il est pas trop tard. Parce que l'une des difficultés qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'usagers qui viennent nous trouver qui ont déjà une problématique addictive avec une difficulté d'ordre social, mental, financière ou autre. L'idée première, ce serait que ces usagers puissent nous voir avant que leur consommation ne pose des problèmes addictifs pour essayer de travailler avec eux et peut-être arriver à faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans une dépendance ou dans une addiction. Et c'est là quelque chose qui serait intéressant et qui est important. Le modèle punitif, pour les finances publiques, il génère des effets contre-productifs. Et c'est la raison pour laquelle, je le rappelle, on est financé par l'État pour travailler sur toutes ces questions.
On l'a évoqué, la distribution de matériel stérile, comme les kits d'injection, d'inhalation, récupération de matériel usagé. Il y a les maraudes aussi, qui sont une forme d'information.
D'outils complètement d'aller vers.
Comme un outil aussi, soit un accompagnement, il y a les substitutions aux opiacés, ça fait partie aussi possibilité d'aide.
Ouais, complet. L'accès au traitement de substitution, que ce soit méthadone, buprénorphine, Subutex, dépistage rapide,
don
de matériel, maraude, programme tapage, on travaille avec des jeunes consommateurs de produits. Tout ça sont des outils qui permettent de mieux prendre en compte l'autre, l'usager, de lui apporter un moment où il puisse être écouté, pris en compte et potentiellement, quand tout va bien, l'amener sur une question de plus globale, de santé globale et de soins.
Je lisais quelque chose sur la médecine qui n'est pas holistique.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui sont sur des questions de soins. Parfois, ils veulent trop bien faire. Absolument. Ils vont s'axer complètement sur le soin. Dès le moment où un de nos usagers de drogue a une problématique santé, c'est pas rare que devant un médecin, devant un chirurgien, on lui dise c'est lié à ta consommation et que du coup, le soignant n'aille pas nécessairement plus loin.
C'est ça. C'est global. Il faut prendre l'individu dans sa complexité.
Évidemment. Puisque c'est la seule manière qu'on a de pouvoir travailler. Et puis si on ne travaille pas ça, que ce qui va faire la personne, elle va sortir de son soin, elle va recommencer potentiellement. Que l'idée qu'il soit accompagné, qu'on puisse l'aider à faire ses propres, élaborer ses propres réponses, peut lui permettre d'avoir envie de prendre soin de sa santé globale.
Bon, c'est important maintenant de s'intéresser aux réponses apportées à cette prohibition. Dans le projet Drugs, on s'implique dans la réduction des risques. C'est une approche qui accepte l'usage de drogue et qui propose des outils et des solutions pragmatiques aux risques et aux dangers, en se basant sur des données scientifiques et expérientielles. En gros, ça veut dire qu'on est contre la répression, la pénalisation, et qu'on reste conscient que la consommation peut comporter des risques que l'on sait réduire. Sans oublier la dimension plaisir associée à l'usage, qui est la plupart du temps non problématique, je le rappelle. C'est une façon de voir les choses qui chatouillent beaucoup les croisées de la guerre contre les drogues, notamment du côté du ministère de l'Intérieur. Celui-ci impose d'ailleurs depuis un moment sa vision au ministère de la Santé, qui n'a quasiment aucune marge de manœuvre et pas d'autonomie en ce qui concerne les psychotropes. Malgré la vision biaisée du gouvernement sur la réduction des risques, c'est une approche qui obtient de vrais résultats en matière de santé publique, et même en termes de sécurité. En fait, considérer les gens comme des humains, ne pas les stigmatiser, ne pas les insulter toute la journée à la télé, et considérer leur expérience de vie avec une réelle empathie, en fait, ça les aide.
On n'a pas effectivement cité tout le monde encore, parce qu'on est de nombreuses structures à venir être présentes sur cette journée-là. Donc là, je vais les citer rapidement. On a l'association ACT UP Sud-Ouest, qui est une vieille association liée à l'épidémie du VIH, qui se veut militante, féministe, qui nous soutient activement dans la construction de la journée. Voilà, sont affiliés, pour le coup c'est notre permanence, Queer Sex and Prod, qui est une permanence qui se tient à Intermed, qui est destinée à un public queer, ayant des consommations de produits, venant chercher du matériel. On essaie toujours de travailler avec les communautés les plus stigmatisées. Dans nos locaux, tous les mercredis soirs, de 18h30 à 21h. C'est tenu par l'association ACT UP et par l'ENIPS. L'ENIPS qui travaille sur la question dans tous les endroits avec ou sans consommation sexuelle, à la mise en place de dépistage rapide par exemple, d'information de toutes ces questions. Et ils ont aussi une antenne qui s'appelle le Sésame, qui est ouverte pour toute personne LGBT souffrant de problématiques psychiatriques ou psy, et on peut en avoir beaucoup. Voilà, donc on a des psychologues sur place qui peuvent prendre en place les personnes, et les personnes peuvent être orientées. On a l'association Aide, le Carut comme l'espace Lounge, qui est situé, les deux sont situés à Saint-Cyprien. On a l'association ARPAD, qui est un des deuxièmes XAPA de Toulouse pour prendre en compte les personnes souhaitant justement mettre en place des sevrages, être dirigées sur des cures et autres. On a l'association Clémence, régionale Clémence Isor, la mienne, sur laquelle on a le XAPA et différents services, HRS, du logement, et le Carut Intermed, réseau analyse ton propre, bien évidemment. on a la fédération addiction, qui est un point fort, hein, qui est la fédération qui regroupe la majorité, c'est une fédération au niveau national, qui organise des journées, qui organise beaucoup de choses, qui soutient toutes les actions qui peuvent être mises en place. On a l'association Modus Vivendi, qui est une des rares associations s'occupant de la réduction des risques liés à l'usage de l'alcool, qui ne prône pas le sevrage comme unique alternative, qui bien sûr accompagne le sevrage au désirata de la personne si c'est la solution qui est le plus appropriée, mais qui va proposer aussi d'autres accompagnements au-delà du sevrage dans la prise en compte des consommations alcooliques. Modus Vivendi travaille surtout pour former, co-former des structures, des professionnels pour leur permettre de travailler sur ces questions d'addiction à l'alcool. On est soutenu bien sûr par Médecins du Monde, que ce soit au niveau national et local. Et SPF, qui est la Société Française Psychédélique, qui est une association assez récente, mais qui se veut très intéressante, qui essaye de mettre un côté scientifique en fait sur l'usage des psychédéliques.
Et si vous aviez un message à faire passer à une personne là, qui nous écoute, qui se sent peut-être stigmatisée de par sa consommation, voire en danger,
Déjà de prendre soin de lui ou d'elle, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est de travailler l'acceptation de soi, de ses problématiques, des problématiques qui peuvent être liées à son addiction, et surtout de ne pas hésiter à pousser la porte de structures comme les nôtres. On en a plein, ça peut être aussi via le forum psychoactif, via des choses comme ça, dématérialisées, si c'est plus simple pour la personne de prendre contact avec différentes structures. Et voilà, c'est dire que l'addiction, ça peut toucher tout le monde, et que plus c'est comme tout le reste, plus c'est pris en charge tôt, moins ça s'inscrit dans les manières de faire et d'être, moins il sera compliqué de pouvoir en sortir, et qu'en tout cas, il y a toujours plus de réussite pour des personnes souffrant d'addiction quand elles sont accompagnées que quand elles sont mises en prison.
Ouais, puis je pourrais rajouter que malgré tout ce qui peut être amené médiatiquement ou politiquement, chaque personne reste libre de son corps, de ses choix, de ses consommations, et elle n'a pas à se sentir jugée ou isolée pour cela.
Écoute, c'est une belle phrase de conclusion.
Ouais, moi je trouve ça bon.
Ouais, grave, on va rester là-dessus. Merci d'être venu nous parler de cette campagne Support Don't Punish.
Et puis un grand merci à toi pour nous avoir invités, parce que c'est rare qu'on ait l'opportunité de pouvoir être présent sur ce type de médias. Et je trouve ça super chouette que tu aies fait la démarche de nous inviter.
Super, merci.
Avec grand plaisir, bonne continuation à vous. Salut, ciao, bye bye.